Mesdames et messieurs les auditrices et les auditeurs, c'est à vous.
Moi, j'ai une question sur la thématique de l'épreuve. Est-ce que l'épreuve en elle-même, toute épreuve qui peut arriver à l'être humain, n'est-elle pas en fait une preuve même de la miséricorde divine et de son amour? Parce que finalement, c'est elle qui conduit à ce cheminement vers Dieu. Est-ce que vous en pensez?
C'est pas moi qui vais répondre. Hein.
Moi, j'aurais juste une réponse rapide, c'est-à-dire c'est ce que le croyant qui a traversé l'épreuve peut dire après. Mais après, pendant, je suis pas sûr que j'arriverai à le dire.
Dans la tradition rabbinique et dans le Talmud, il y a un traité entier consacré à cette question-là.
Ça se lit très bien.
Ça se lit très bien, ça se lit très bien. Et vous le trouvez en traduction française, c'est le traité Brachot, le traité sur les bénédictions. Et alors, il est beaucoup question de la signification de l'épreuve. Et effectivement, l'épreuve est toujours une épreuve qualifiante. C'est-à-dire que là, on est dans la. Effectivement, comme dans le cas d'Abraham, c'est le Nisayon, c'est-à-dire que les épreuves sont toujours des épreuves, on appelle Nisayon Shelahava, ce sont des épreuves d'amour, en fait. Ce sont des épreuves d'amour qui sont susceptibles, lorsqu'elles sont surmontées, de fortifier la foi. Et donc, c'est effectivement, ce sont des épreuves de la foi, bien plus que de la personne auxquelles ces épreuves sont adressées. Donc c'est un peu byzantin si j'ose, c'est un peu secondaire, il ne faut pas prendre les choses pour soi. C'est l'être humain en tant que personne qui est mis à l'épreuve, l'être humain en tant que personne qui est mis au défi finalement de surmonter cette épreuve et de reconnaître à travers le surmontement de cette épreuve l'expression de la grâce divine. Voilà, ça c'est très important. Et c'est quelque chose de très significatif, notamment dans des situations qui peuvent être des situations limites, comme le fait d'avoir été exposé à un grand danger ou à une maladie grave et d'en avoir échappé. Et à ce moment-là, le traité Brachot est extrêmement intéressant parce qu'il fait une typologie des épreuves et par conséquent des formes d'expression de la gratitude qui en résultent. Alors, comme on sait dans le judaïsme, les sacrifices ne sont plus du tout en vigueur et ont été remplacés par un certain nombre de prières, mais qui ont la même valeur que les sacrifices. La notion de sacrifice en hébreu se dit korbanot, korban. Korban, c'est on traduit par sacrifice, mais en réalité, dans le mot hébreu korban, on a la racine kuf ramet kafresh, c'est le karav, c'est le fait de se rapprocher d'eux. En fait, quand on apporte un sacrifice, on s'approche de Dieu. En sorte que faire un sacrifice, c'est se rapprocher de Dieu. Et si l'être humain, effectivement, ne sacrifie pas sa propre vie, la substitution éventuelle par un animal ou par une offrande qui n'est pas consommée, parce qu'on n'est pas dans le contexte païen, c'est d'une certaine manière l'équivalent, en quelque sorte. C'est l'équivalent spirituel de ce que coûte la vie qui se sacrifie. C'est une offrande substitutive. Mais dans le cas du judaïsme post-biblique, on est plutôt dans une symbolisation. Et c'est pour ça que la prière tient lieu du sacrifice. D'ailleurs, tout le rituel est un substitut très sophistiqué du rituel sacrificiel du temple de l'Antiquité.
Merci, bien sûr.
Merci.
Merci.
Et bravo pour vos trois interventions. J'aurais une question à vous poser à tous les trois. Sur le chemin de l'épreuve, Abraham ne prévient pas Isaac du geste qu'il va accomplir. Où est la vertu?
La vertu, si je peux me permettre de répondre en premier, ce sera très, très bref, la vertu consiste dans la confiance. C'est la confiance. Puisqu'il est question quand même de l'angoisse d'Isaac dans le texte, hein, et son père lui répond de manière extrêmement brève, ce qui peut en dire long, parce que lui-même est dans l'incertitude. Mais néanmoins, l'un comme l'autre ont confiance. Et c'est ça la vertu première, finalement. C'est ça la émouna, c'est la confiance. Et c'est d'une certaine manière de cette vertu première que se déduisent toutes les autres vertus. C'est pour ça qu'il est délicat de parler de ces questions-là avec un lexique qui est piégé par les connotations et les partages, y compris idéologiques. Si on dit que la confiance, c'est-à-dire la foi, bon, on risque de se méprendre parce que le terme de foi est toujours dissocié, en tout cas dans le sens commun, de l'idée de raison. La foi est toujours quelque chose d'irrationnel. Mais tel n'est pas le cas dans la mentalité hébraïque. C'est la confiance. La confiance, c'est-à-dire une certitude profonde que finalement, les choses se passeront pour le bien et pour le mieux. Et de fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Abraham n'est pas déçu du voyage. Hein. Isaac est quelque peu inquiet, mais ça ne se termine pas mal.
Ouais, alors moi j'ai une question, alors ça va peut-être paraître, et j'ai envie vraiment de vous entendre, c'est vrai que merci parce qu'on n'a pas l'occasion, souvent en tout cas d'avoir en face trois représentants, en tout cas de la connaissance des trois religions dans le pays. Mais dans cette histoire, dans chacune de ces histoires-là, alors comment je vais vous demander ça, sans paraître trop... violente, mais la violence du coup aujourd'hui dans chaque monothéiste, elle s'exprime de quelque façon que ce soit, le rejet d'autres par exemple, alors que ça paraît une histoire, j'allais dire, assez agréable à entendre,
Jean-Pierre partage pas,
mais je trouve, tu vois, sacrifice, non sacrifice par exemple. C'est une belle histoire au final. Il n'a pas sacrifié. Oui, mais enfin, il n'a pas sacrifié.
Il n'a pas mis son.
Il a sacrifié un animal. Enfin, bref. Donc, en tous les cas, dès que vous ramenez cette histoire, elle nous paraît agréable. Et qu'est-ce qui est devenu cette histoire, en fait, à travers ces trois monothéistes?
Bon, je fais une petite incise, je me permets, mais on voit qu'il est important sur un texte comme ça, qui en effet, en soi, est extrêmement violent, et qu'on peut recevoir comme très choquant. De l'importance d'avoir une lecture, une compréhension, une traduction, si je puis dire, une réincarnation de ce texte dans son contexte et dans ce qu'il veut nous dire aujourd'hui.
Ouais. C'est-à-dire que là, oui, pour aller dans le sens dans votre sens, Gabriel, il semble que ce qui est très important, effectivement, c'est la façon dont les traditions herméneutiques respectives tempèrent ce que vous appelez la violence du texte. Parce qu'effectivement, et c'est là que la convocation des personnes qui ont étudié ces textes-là est précieuse, c'est qu'on peut aller au-delà de la lecture littérale. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une lecture littérale du texte biblique, notamment, ou du Coran, parce que effectivement, on peut s'accrocher aux mots et à l'imaginaire social contemporain. Et en fait, les traditions herméneutiques, enfin, je parle en tout cas pour celles que je connais le mieux, sont des antidotes à cette violence qui pourrait s'exprimer, sont des garde-fous contre le passage à l'acte. Pour répondre à votre question en suivant la logique de votre raisonnement, pour ma part, la tradition herméneutique biblique, y compris rabbinique, même si, et je ne vais pas mâcher mes mots, il y a des rabbins dévoyés aujourd'hui, la tradition herméneutique est un prisme critique à l'endroit des pratiques politiques. D'aucune manière, aucun théologien juif normalement constitué, sauf s'il est pris par les passions nationalistes, ne mettra l'herméneutique biblique au service des intérêts politiques. Malheureusement, il en existe. Ça, c'est tout à fait évident. Mais il faut aussi admettre que c'est une extrême minorité. Donc, en général, la position rabbinique, elle consiste à dire que, puisque vous savez, dans la vie, mais j'imagine que c'est le cas dans les autres traditions et pour cause, on fait une distinction entre le Olam Abba et le Olam Hazé, c'est-à-dire ce monde-ci et le monde à venir. C'est toujours au profit du monde à venir que les théologiens prennent la parole. Ce n'est jamais pour justifier un état de choses présent. Et si un état de choses présent est critiquable, alors ils le feront, parce que les catégories de sens de la Bible permettent de le faire et engagent à le faire. C'est de cette manière-là que on peut raisonnablement décloisonner et disjoindre l'intervention herméneutique de toute intervention de type politique. Si les gens s'engagent sur le plan idéologique, c'est vraiment à titre personnel, et il serait mal fondé à le faire au nom de ceci ou de cela, en parlant de leur référence religieuse. Ça, c'est très important.
pour essayer de répondre à votre question, je reprendrai ce que vient de nous dire Georges Elia sur le monde-ci et le monde après. Et que finalement, ce texte nous dit quelque chose de la manière dont on va passer pour le monde d'après. Je serais tenté de vouloir offrir ce qu'il y a de plus beau à Dieu, à payer le prix. Si c'est pour l'éternité, le paradis, c'est quoi le prix? Et pour ce prix-là, je suis capable d'une certaine violence, d'une réelle violence. Il s'agit de moi, vie éternelle à moi. Qu'est-ce que je suis prêt à payer? Surtout si c'est la vie des autres. La mienne, ça va être plus problématique, mais quand même. Et que donc finalement, mon entrée dans ce que j'appelle le royaume de Dieu, mais on peut l'appeler Gan Eden ou d'autres termes, peu importe, elle ne pourra se faire qu'en acceptant de poser le couteau. Et non pas en arrivant devant Dieu en lui disant « Regarde tout ce que je suis prêt à t'offrir et tout ce que j'ai fait pour toi », mais en prenant le temps d'accueillir et de dire « J'accueille tout ce que tu as fait pour moi ». Et ça, c'est une ligne de crête qui est très très claire dans tous les récits évangéliques. Très très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte, il parle de ma violence à moi. Que je suis capable d'avoir à l'égard de mon prochain, et que je suis capable d'avoir même à l'égard de Dieu, pardonnez-moi. Et alors, ça me fait, pour répondre cette fois-ci plus précisément à votre question, sur la place de la violence dans les textes bibliques. Il y a, et c'est quelque chose que seule la mise par écrit, et pas simplement la tradition orale, peut produire. La mise par écrit peut faire voir cette transmutation, cette transfiguration, j'emploie délibérément un terme chrétien, mais peut-être a-t-il des places dans les autres traditions, peut voir cette transfiguration d'une violence qui est déposée et qui peut devenir autre chose. Et j'ai besoin de l'écriture, j'ai besoin de l'épreuve de l'écriture. Vous parliez de l'épreuve tout à l'heure, monsieur, j'aurais aussi pu répondre en disant... l'épreuve, c'est d'accepter de tourner les pages de la Torah, des prophètes, de l'Évangile, de ne pas rester bloqué sur une. C'est comme dans le désert, si on ne marche pas, on meurt, si on ne tourne pas les pages, on meurt. Et d'accepter que chaque page soit une mise à l'épreuve et une croissance de soi, ou comme le disait Raled, cette démise de soi, j'ai voulu trouver la périphrase... objet de méditation à venir. Voilà. Et donc, finalement, il y a 600 récits de meurtres, de violences, de guerres, de batailles dans la Bible. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu est violent, c'est parce que Dieu s'adresse à une humanité violente. Et donc, on a tous fait cette expérience d'avoir à parler à un enfant qui est en pleine crise de colère. Eh bien, on est obligé de se faire une certaine violence, non pas pour le frapper, mais pour rentrer en contact avec lui. Dieu fait ça. Et la mise par écrit de cette rencontre-là permet de ne pas rester figé dans un face-à-face du violent ou face au violent.
Je voudrais faire écho à ce que vient de dire Eric Morin, c'est qu'en fin de fait, le philosophe Emmanuel Levinas dit une chose très intéressante dans ses essais sur le judaïsme, il dit que la Bible prend l'humanité comme elle est. C'est-à-dire qu'il y a un réalisme foncier. Mais qu'en même temps, ce qui caractérise la tradition biblique, et de manière générale la tradition monothéiste, c'est l'exigence morale. C'est-à-dire que c'est une invitation à ce que vous appelez la transfiguration, et ce qu'on peut appeler la transformation, la spiritualisation de l'humanité. C'est le but ultime de la tradition monothéiste, c'est la spiritualisation de l'humanité. Donc il n'y a pas de paradoxe à constater qu'il y a 600 récits d'exaction, et en même temps de voir que ce qui est en jeu, ce qui est à l'œuvre dans cette histoire, c'est une tentative, la tentative de l'intervention prophétique pour modifier cette humanité qui est profondément animale quelque part. C'est ce dont nous parle le chapitre 3 de la Genèse, le fameux problème de la faute d'Adam. Qu'est-ce que c'est la faute, le péché originel? Qu'est-ce que c'est le fait de ne pas accepter cette coopération avec le Créateur de façon à passer à un autre stade de l'humanité, à une humanité capable de se transformer. C'est ce que Paul appelle la métanoïa, c'est profondément ça qui est en jeu, c'est la transformation d'une humanité qui n'est pas encore achevée. Et c'est cela dont nous parle la Bible. Alors c'est vrai, et c'est mon dernier mot, que malheureusement, la tradition monothéiste, de façon générale, est exposée aux pires interprétations qui soient aujourd'hui, notamment de la part d'auteurs qui, tout en étant des intellectuels, n'ont aucune connaissance théologique. Alors, puisqu'ils sont dans des domaines et dans le débat public, on peut donner leur nom. Je pense à quelqu'un comme Michel Onfray. Son traité de la théologie est un tissu d'illogisme, enfin, parce qu'il n'a aucune connaissance théologique, ni dans l'une ni dans l'autre des traditions monothéistes, et il s'en tient à une lecture littéraliste. Il y en a un autre qui est Jean Solaire, si vous connaissez ses travaux, entre guillemets. Moi, ce n'est pas des travaux sérieux, ça veut dire, qu'il a une interprétation gnostique de la Bible. Une interprétation qui révulse n'importe quel monothéiste conséquent. On dit, où est-ce qu'il était cherché? C'est ces âneries. Voilà. Où est-ce qu'il était cherché cette vision fondamentaliste de la Bible? Il prête au texte même des intentions génocidaires qu'il n'a pas, parce qu'il est décorrélé, tel qu'il le voit du moins, de toutes les traditions herméneutiques. Voilà. Ça, c'est très important de préciser ça. Et malheureusement, peut-être qu'on devrait y contribuer tous les trois, je ne sais pas, je lance une proposition, à une réfutation en règle de ces auteurs. Parce qu'il serait important que le public ait un autre son de cloche que ce type de littérature qui est dévastatrice sur le plan et culturel et spirituel.
Pourquoi finalement c'est l'inverse ? C'est-à-dire que ces auteurs ont un succès fou et vous n'êtes pas...
Mais parce que nous sommes dans un contexte culturel dominé par deux siècles de laïcisme agressif. Et que par conséquent, on a laissé, à proportion de la méconnaissance fondamentale des traditions religieuses monothéistes, on a laissé se diffuser tous les préjugés qui sont ceux de l'anticléricalisme le plus éculé.
On a l'éternité devant nous. Non, mais je dis tout ça en rigolant, mais le dernier livre de l'auteur qui a fait quelque chose qui s'appelle La Soumission, le christianisme est passé en règle après. Le premier chapitre est une dénonciation, donc de Houellebecq, une dénonciation de l'historicité de Jésus. Très honnêtement, c'est la plus maligne que j'ai jamais lue. D'affirmation de la non-historicité de Jésus. Donc avec plusieurs on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Bon, on a rassemblé les éléments, on a refait le dossier pour la 25e fois. Comment prouve-t-on l'existence historique de Jésus? Comment répondons-nous précisément à des objections nouvelles formulées par Houellebecq? En cours, je n'en parle plus, parce que ça n'a pas eu prise. Si j'en parle, je lui fais de la pub. Donc finalement, il a eu effectivement la place médiatique, pas moi, mais on ne parle plus de lui. Je crois que voilà, on a le temps devant nous.
C'est très délicat. Je dirais que dans un contexte pareil, c'est presque une responsabilité d'assumer le silence.
Voilà, tu peux peut-être rentrer la question de notre ami.
Deux questions. Allez-y, madame.
Pour revenir sur ce qui a été dit, je trouve effectivement. Il faut avoir des remarques. L'année prochaine, il y aura un travail de transmission, pas plus de temps en temps à faire.
Bien fait, là, ce
enfin,
soir.
Voilà, oui. Une fois que ça pose la question de la transmission, à trois voix, je vous remercie de vos interventions à tous les trois. Et sur cette question aussi de l'adhésion rationnelle, enfin, au départ, j'avais une question simplement de linguistique et peut-être de concordance de ces trois traditions et de montrer en quoi elles soutiennent le raisonnement. Je crois que c'est quelque chose de précieux par rapport aux opposition adverse qui consiste à montrer que tout ça n'aurait pas de fond. Je précise ma question, Jérémie Sarfati a parlé du sens du mot béhémeth, ce qui est dit en disant béhémeth, je donne mon adhésion. Du coup, ma question est pour tous les trois, elle est aussi pour vous. Quand on entend le Christ dire en vérité, que sait-on au niveau des sources linguistiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'il le dit en hébreu ou en araméen, est-ce qu'il y a le lien avec l'hébraïsme, et comment est-ce qu'en tant que chrétien, on comprend traditionnellement ce en vérité. Et ma question aussi pour vous, Ralette, c'est quelle serait dans le texte coranique, ou chez Mahomet lui-même, et en arabe, le sens du mot amin en arabe, qu'est-ce que ça désigne dans sa propre tradition? Est-ce que c'est quelque chose de proche ou
différent? Bien, vas-y. Alors, comme je suis en retard de quelques réponses,
que je m'étais délibérément mis un peu en retrait, je répondrai volontiers à vous et puis en rebrousse-poil, même si quelqu'un qui a parlé de la confiance est déjà parti. Faisons un peu d'étymologie, effectivement. Amin, Iman, Amana, tout ça c'est la même racine et ça renvoie, c'est très polysémique, mais ça renvoie avant tout à une notion de sûreté, de sécurité, de fidélité, de confiance, de foi aussi bien entendu, et de dépôt. Je dépose quelque chose auprès de quelqu'un et je suis sûr qu'il me le, redonnera. Donc c'est une sorte de dépôt dont on est sûr qu'il ne partira pas ou qu'il ne sera pas perdu. Donc ce sont toutes ces notions-là. Et quand on dit Amin, enfin d'abord la foi c'est plutôt Iman, je ne voulais pas trop vous infliger des notions en langue arabe, les traduire, etc. Il vaut mieux y aller directement en français. Mais effectivement, Iman, c'est la foi. Et en même temps, une notion de sûreté et de sécurité, avec la notion de fidélité et de probité, au sens où les biens ne se perdent pas auprès de quelqu'un quand on les lui confie. Donc il y a aussi une notion de confiance. Voilà toute la polysémie du mot Iman, Amana, Amin, etc. Maintenant, la question de violence qui, à elle seule, aurait nécessité une conférence ad hoc.
Il y en a une sur le sujet.
Ah, oui.
Enfin, deux pardon, oui. Sur le sujet.
Mais... D'abord, moi, je pars de l'idée qu'on ne reconnaît l'arbre qu'à ses fruits et une tradition religieuse valide, c'est celle qui a des fidèles sereins, apaisés, intelligents, etc. Et si on n'en a pas ça, ça veut dire que quelque part, la dite tradition a des choses à revoir. Elle est en interrogation, elle est en épreuve, et il y a des présupposés, il y a des fondements théologiques et autres qui sont véritablement à voir. Et l'une des difficulté, c'est effectivement le littéralisme et le fait de faire dire à des textes ce qu'on a envie, en y projetant à la fois ses colères, ses peurs, ses anxiétés et puis son agressivité. Or, tu m'as entendu peut-être le dire une ou deux fois, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Donc c'est cette devise, j'ai envie de dire, qui doit guider le comportement des croyants, des hommes et des femmes de foi. Et les passages belligènes, martiaux, guerriers, violents, sont à relativiser à leur contexte, bien entendu, parce que tout discours, quel qu'il soit, et même un discours attribué, quoique le mot « parole de Dieu », etc., sont à revoir. Entre la parole de Dieu et ce que nous avons entre deux couvertures, il y a peut-être de la perte en ligne, j'ai envie de dire. Donc, mais tout discours, quel qu'il soit, est censé frapper l'entendement et la psyché du peuple récipiendaire ou des auditeurs. Donc à ce moment-là, que ce soit au 7e siècle ou avant, bien, hélas, Le milieu était un milieu d'hostilité, de guerre, de razzia, de terribles antagonismes. Donc ça épouse les contingences humaines et en même temps, sans être macronien, il les subsume. Parce qu'il y a ces passages violents et il y a le rang, le bien pour le mal, où tu tendras ton autre joue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset, je suis en train de faire de l'exégèse sauvage, je ne peux pas dire il faut relativiser le texte à son contexte, et puis je vous brandis des passages hors contexte. Je corrobore même le comportement et la méthode sur le plan épistémologique des fondamentalistes, mais je le fais par abus méthodologique. Donc, un passage du genre Et quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui siège d'une grâce infinie. » Devrait en principe, fin de citation, c'est le verset 34 de la sourate 41, devrait en tout cas neutraliser, dévitaliser, suspendre à tout le moins les velléités de violence chez ceux qui prendraient par exemple le passage. Et quand les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été injustement chassés de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Voilà en gros le passage, j'allais dire, in globo, mais on a des individus qui vont mettre un point là où il y a une virgule, à supposer que la ponctuation eût existé déjà à ce moment-là. Donc il y a un véritable problème quant au rapport au texte. J'aurais pu être encore beaucoup plus long, mais je m'arrêterai là. À propos de la confiance, dans le récit coranique, cette fois-ci, Ismaël savait à quoi il s'attendait, puisque son père lui dit « Oh, mon fils, j'ai vu en songe que j'ai à t'immoler. Qu'en penses-tu ? » Alors certains trouvent une vertu de dialogue à ça, et le fils qui rétorque « Père, fais ce dont tu as été ordonné, ou fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi ceux qui savent être patients, parmi ceux qui sont endurants. » Donc la vertu de ce dialogue, c'est de dire d'abord, même si le père était déterminé, il demande quand même l'avis du gamin. Et le fils ne s'était pas effarouché, n'a pas dit « Ah non, non, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Il lui dit ben, « Si tu as été ordonné de le faire, moi aussi je saurais patienter. » Ce n'est pas de la résignation maladive, ce n'est pas de du fatalisme morose qui faisait horreur à Leibniz. C'est la confiance. Voilà. Alors, mon cher Jean-Jacques, plus tard, je te répondrai sur la preuve, parce que j'ai été trop long. C'est pas que je ne veux pas le faire.
Merci, Aurèle. Oui, voilà, tout à fait.
Alors, vous avez posé plusieurs questions sur Amen, vérité. D'abord, donner un rapide témoignage. Le jour où en cours, j'ai appris ce qu'on vient de nous rappeler sur cette étymologie, ça a été pour moi une espèce de d'ébranlement, de tremblement, parce que, de fait, beaucoup de choses se remettaient en place les unes par rapport aux autres. Je l'ai vérifié rapidement en écoutant Ralette. Dans le texte grec, quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », en fait, il dit « Amen, Amen », et ensuite la phrase continue en grec. Oui, donc en fait, l'évangéliste Jean, qui n'est pas le seul, mais celui qui l'utilise le plus cette formule-là, à ce moment-là, fait une translittération de l'araméen ou de l'hébreu, on trouve ça aussi en araméen, qui était la langue maternelle de Jésus, au texte grec. Le fait de traduire en vérité, c'est souvent dans la traduction liturgique, bon, c'est pour permettre un peu de compréhension du texte, c'est pas très exact, il faudrait par fidélité garder le mot amen, mais comme les chrétiens savent pas ce que ça veut dire, c'est peut-être pas mal non plus de mettre le mot vérité. Voilà. Et je pense qu'effectivement, tout cela, j'étais à voir dans le livre d'Isaïe au chapitre 7, verset 9, « Imlota aminu ki lota teamenu » Si vous n'êtes pas affermi, alors vous ne serez pas ferme. Enfin, il y a un jeu de mots, un passage de construction à une autre. C'est-à-dire que la découverte de cette vérité est un affermissement progressif. L'image du gué qu'il faut traverser, quand on met son pied sur le caillou, on vérifie qu'il est stable, et plus on le trouve ferme sous son pied, plus notre pas s'affermit. Et ce verset d'Isaïe, pour moi, est très parlant, parce qu'il dit vraiment ça dans la démarche de véridiction, plutôt que de foi ou de vérité. C'est-à-dire d'un discours qui établit progressivement, rationnellement, ce que l'on croit et ce que l'on reçoit.
Claire.
Je reviens de manière un peu. Parce que, en fait, quand vous dites que souvent le plutôt Abraham accepte de quitter l'idée qu'il se faisait de Dieu, et donc, mais en même temps, c'est quand même Dieu qui lui demande de faire ce sacrifice. C'est pas lui qui se dit je vais faire ce sacrifice pour offrir le meilleur à Dieu. Donc je trouve que. Voilà, c'est un peu le
point d'achoppement. Mais on reprend. Oui, mais je l'accepte bien. D'abord, je vais poser cette limite-là. Mais justement, parce qu'il le fait en obéissant à Dieu, déjà, il y a un décalage. Je crois que je vais souligner ça. Et puis, ce qui me paraît essentiel, c'est que Dieu, d'une certaine façon, et je prends un mot fort théologiquement, épouse la situation d'Abraham. C'est ça ? Eh bien, vas-y. Et c'est que parce que Dieu va à la rencontre de cette violence et se fait violence d'une certaine façon par rapport à ce qu'il dit par ailleurs, qu'il va pouvoir tenir le dialogue avec Abraham, que la fidélité d'Abraham, c'est aussi d'avoir tenu le dialogue, parce qu'on n'est pas rentré dans l'ambiguïté de la phrase « Tu élèveras ton fils d'une élévation » quand il dit « Nous reviendrons », qui reviendra. Voilà, donc Abraham est dans une ambiguïté et son attitude de croyance est aussi d'accepter de tenir l'ambiguïté jusqu'au bout et de laisser Dieu lever l'ambiguïté. Et c'est pas lui qui va décider. Mais c'est pas la même chose de se dire je vais faire ou je fais en obéissant à Dieu. Parce que du coup, on laisse la possibilité à Dieu de dire c'était pas ça. C'est pour ça que les deux, et c'est effectivement important de bien considérer que le verset 1, c'est Dieu qui parle, et c'est pas Abraham qui se dit Dieu.
Y a-t-il d'autres passages, notamment des textes du Coran et de la Bible, qui permettraient une deuxième conférence?
Très bonne question. Merci de la question. Merci. Pour l'année prochaine.
Parce qu'on va devenir rodé sur Israël.
Ouais.
Parce que vous n'avez pas dit tu élèveras d'une élévation. Moi, je l'attendais.
Oui. Vas-y.
Enfin, des textes communs.
Oui.
Aussi fondateurs, qui permettraient la même richesse.
Le décalogue. Oui.
Le décalogue. Le décalogue est dans le Coran. Il est un peu plus épars. Il n'est pas ramassé comme ça, mais on le trouve. Il est présent.
La caverne.
Elle n'est peut-être. On remarque, oui, il y a l'enseignement dit par l'absurde et chez les. Il est prisé par les mystiques. Ce passage, la sourate dite de la caverne, elle est davantage commune aux chrétiens et aux musulmans. C'est les fameux sept dormants d'Éphèse. Ça a été rapporté donc dans les premiers versets de la sourate 18. Il y a Joseph, il y a Noé, il y a Lot,
il y a de très nombreuses figures,
ou des traditions sur Moïse,
toutes les péricopes sur Moïse.
Parce que une des caractéristiques du texte que vous venez d'approfondir, c'est aussi l'aspect très fondateur. Alors pour la tradition catholique et juive, il y a un lien direct. J'avais pas fait ce lien avec la tradition coranique. Est-ce qu'on aurait dans les textes que vous venez de citer la même profondeur et la même base finalement qu'on retrouve dans les trois traditions?
Caïn et Abel, juste comme ça.
Oui, Caïn et Abel. Ouais. Ah, ça, c'est. Oui, ça, il est plus que fondateur. Ah, oui. Et puis les lectures dans le contexte juif, chrétien et islamique sont de bonnes lectures.
Et les textes sont fondateurs de par la place qu'ils occupent dans la tradition. Ils ne sont pas fondateurs en soi. Pourquoi décide-t-on de faire de ce texte-là plutôt qu'un autre qui est assez curieux, mais que j'ai évoqué déjà, qui est celui du chapitre 15 de la Genèse, où Abraham se met à compter les étoiles et c'est le signe de la promesse de Dieu. Moi, je trouve ça, pour moi, très parlant. Bon, ben, ça n'a pas la même valeur fondatrice dans nos traditions, même si c'est un beau texte. Voilà, c'est parce que les textes sont difficiles que du coup, les traditions vont les recouvrir d'interprétations. Et c'est, du coup, ils sont fondateurs.
J'entendais vous dire que c'est poétique, oui, mais c'est aussi prophétique. Regardez la façon dont cette promesse à Abraham s'est vérifiée au cours de l'histoire. De fait, l'humanité est en grande partie liée à cette promesse. Ça n'est pas juste une belle image, c'est que la descendance d'Abraham est une descendance dans l'historique diversifiée. Ça n'est pas juste
on retrouve notre la performativité
du... Non mais on se connaît un peu aussi pour contextualiser.
Oui, voilà.
Que ben, vous faites partie des Juifs qui disent, qui reconnaissent que je puisse me dire fils d'Abraham, ce qui n'est pas le cas de tous les Juifs. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, ben, effectivement, notre discours a l'air assez harmonieux et assez fluide. Vous nous donnez une demi-heure de plus. On va retirer les couteaux d'abord.
Bien, ben on va remercier les trois fils d'Abraham. Un immense merci.
Merci à vous. Merci à toi.